aussi la deuxième partie de ma conversation avec Jean-François Guéraud sur les mafias à la Maison Blanche. Si vous avez raté le début, évidemment, je vous invite à commencer par là pour que ce soit plus clair. Bonne écoute. Donc on est sur une période où c'est plutôt tranquille pour la mafia. Je voudrais faire une. C'est pas une digression parce que c'est quand même assez central dans votre livre. On voudrait qu'on parle aussi de ce qu'on appelait les syndicats des Teamsters, qui sont une pièce importante en fait du puzzle dans ce jeu politique américain, puisque justement ce syndicat-là est un syndicat extrêmement puissant, qui est une vraie force politique, qui a une force de blocage notamment, qui est extrêmement influente aux États-Unis, avec un patron qui est resté à la tête des Teamsters pendant des années et des années, et qui est aussi totalement corrompu, qui a des liens avec la mafia, voire des liens avec d'autres types de criminalité. Voilà, est-ce que vous pouvez me parler de cette pièce-là du puzzle, pareil, dont on n'entend pas forcément parler, quand on ne pense pas à ce côté-là, quand on pense au syndicat, forcément?
Alors, comme vous le savez, il y a une histoire syndicale très très virile aux États-Unis, hein, puisque les rapports entre le monde ouvrier et le monde patronal ont été brutales, très très brutales. Et il y a de très grands syndicats aux États-Unis qui ont parfois un quasi-monopole d'embauche. Et à l'époque, à partir des années 40-50, un des syndicats les plus puissants aux États-Unis, c'est le syndicat dit des Teamsters, c'est-à-dire, entre autres, des camionneurs. Alors, les camionneurs ont un rôle central dans un pays dominé par le commerce, dans un pays grand comme un continent. En gros, si les camions ne roulent pas, il n'y a plus d'économie. Bon. Et le seul problème, c'est que l'histoire syndicale américaine est traversée non pas comme en France et en Europe par le marxisme ou l'anarcho ou la pensée anarchiste. Elle est plutôt traversée donc par la corruption du crime organisé. Ce sont des syndicats beaucoup moins politisés politiquement, beaucoup plus corporatistes, et avec cette particularité, donc, c'est d'être très corrompu par le crime organisé. Et c'est le cas en particulier des Teamsters. Et un certain nombre de sénateurs dans les années 50 vont prendre conscience du fait que plein de syndicats donc sont très corrompus par le crime, que c'est en train de fausser complètement la vie économique et sociale du pays. Et je raconte donc comment le sénateur McLean, au Congrès, va lancer une grande commission d'enquête sur donc la corruption par le crime organisé dans les syndicats, et en particulier dans le syndicat des Teamsters, qui est dirigé au début des années 50 par un certain Dave Beck, et ensuite va être dirigé par un homme qui est passé à la postérité, qui s'appelle Jimmy Hoffa, et que l'on peut classer simplement dans la catégorie des associés de la mafia italo-américaine. Alors, ça n'enlève rien au caractère tout à fait extraordinaire du personnage, un homme très dévoué à la cause ouvrière, mais un homme aussi qui a travaillé au profit de quelques grandes familles italo-américaines, en l'occurrence principalement de la famille de Chicago.
Ah, donc on voit à quel point ça s'étend. C'est aussi pour ça qu'on peut appeler ça la pieuvre, mais c'est vraiment sur toute l'activité. Il y a un lien aussi entre toute l'activité économique du pays et cette criminalité qui est toujours présente, quel que soit l'endroit. Oui.
Exactement, mais c'est ce que montre très bien l'enquête du sénateur McLean. Et à l'époque, il a à côté de lui, dans la commission, un jeune sénateur qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy. Et puis, il a surtout à ses côtés un jeune enquêteur-interrogateur qui va passer à la postérité à partir de cette commission, puisque c'est lui qui va mener les auditions des syndicalistes et des mafieux. C'est Robert Kennedy, Bobby Kennedy. Voilà. Et Bobby Kennedy, à travers cette commission d'enquête, va prendre conscience donc du danger pour la démocratie et pour la vie économique sociale du pays, du poids du crime organisé. Et il en fera un livre qui a d'ailleurs été traduit en français, publié aux éditions Robert Laffont, qui s'appelle L'ennemi de l'intérieur, The Enemy Within. Et il explique très bien que, et c'est en soi original, que le crime organisé et la mafia est en train de faire peser sur l'avenir de la démocratie américaine un danger mortel. Et c'est d'autant plus intéressant qu'à l'époque, on a gardé le souvenir que d'une guerre froide dominée par la grande peur du communiste, The Red Scare. Mais en réalité, aux États-Unis, on commence à prendre conscience d'un autre danger sur la démocratie, qui est aussi organized crime, le crime organisé.
On va parler des Kennedy, mais ce qui est frappant, c'est justement de se rendre compte du rôle que va jouer Bobby Kennedy dans cette prise de conscience. Et ce qui est étonnant, enfin, on devrait s'étonner à ce moment-là de l'histoire, entre guillemets, mais que fait la police? Que fait notamment le FBI, puisque à cette époque-là, on a quand même une organisation qui est bien structurée, donc qui s'appelle le FBI, Federal Bureau of Investigation, qui est dirigée par un personnage extrêmement célèbre, qui a été à la tête du FBI de 1924 à 1972, qui est J. Edgar Hoover. Mmh. Et on se demande pourquoi la mafia prospère alors que justement les États-Unis sont dotés a priori des outils pour entraver cette progression. Et pour raconter ça très bien, c'est que durant toutes ces années, le patron du FBI nie littéralement l'existence de la mafia sur le sol américain jusque presque à la fin de son mandat, jusqu'aux années 60. Et il a fallu justement que des personnalités comme Bob Kennedy écrivent là-dessus et commencent à faire sortir des années 60 pour qu'on en parle. Vous dites qu'il y avait le Federal Bureau of Narcotics qui s'intéressait à ces sujets-là. Mmh. Mais voilà, il y avait une espèce de guerre entre les institutions et Hoover est un personnage central pour expliquer le fait que ce phénomène-là, finalement, a été assez mal traité pendant très très longtemps. Est-ce que vous pouvez parler de Hoover et de pourquoi, en fait, il y avait cet état de fait ?
Alors, vaste question, centrale et assez passionnante. Donc, on a deux institutions qui vont naître et croître à peu près en même temps. Donc, la mafia italo-américaine dans les années 20-30, et puis le FBI qui naît au début du XXe siècle, qui va se voir doté petitement et dans les années 20-30 également de pouvoirs humains et juridiques. On a donc deux institutions très fortes qui vont croître en parallèle, mais qui vont s'éviter. Et en effet, J. Edgar Hoover, pendant 48 ans, il va y avoir des petites parenthèses, on pourrait y revenir tout à l'heure, aura une doctrine, un mantra, « There is no mafia ». La mafia n'existe pas en tant qu'organisation. Oui, évidemment, dit-il, il y a des criminels italo-américains comme il y a des criminels dans toutes les communautés, mais l'idée qu'il existe une organisation structurée, pérenne et secrète, il dit, ça n'existe pas. Alors évidemment, en disant cela, il mentait. Puisque Hoover savait très bien que la mafia existait, le FBI n'était ni sourde ni aveugle, mais il fait ce mensonge qui est en fait une politique d'évitement pour tout un tas de raisons que j'analyse dans mon livre. C'est pas le cœur du livre, comme vous l'avez vu, mais je renvoie ça plutôt vers des notes de bas de page. Et pour faire simple, je dirais qu'il y a deux grands types de raisons. D'abord, il y a des raisons, une raison d'abord politique et bureaucratique. Hoover sait très bien que s'il s'attaque à la mafia, alors que le FBI est une institution toute jeune, il risque d'engager un combat qu'il ne gagnera peut-être pas. Par ailleurs, il sait que la mafia est une entité dangereuse et très corruptrice, et donc il y voit un danger pour la pérennité de son organisation. Et puis, en bon bureaucrate qui aime le pouvoir, qui veut avoir toujours de plus gros budgets, en bon bureaucrate qui aime la politique du chiffre, hein, vous voyez, ça n'est pas nouveau. Il se dit qu'il est plus facile d'obtenir des budgets auprès du Congrès des États-Unis en arrêtant des voleurs isolés, les Bonnie and Clyde, les desperados de grand chemin. C'est plus facile que de s'attaquer à une organisation criminelle. Et en plus, s'il s'attaquait à cette organisation criminelle, il se fâcherait avec les politiques, puisqu'en réalité, la mafia corrompt les politiques au niveau local et au niveau national. Donc, en hyper résumé, il n'y a que des coups à prendre à reconnaître l'existence de la mafia, et si vous reconnaissez l'existence de la mafia, vous êtes obligé de lutter contre la dite organisation. Mais si vous niez l'organisation, vous n'êtes pas obligé de lutter contre elle. Alors évidemment, il y a eu tout aussi en parallèle, on a expliqué que cette politique d'évitement et de déni du réel par Hoover de la mafia pouvait tenir à d'autres considérations, le fait qu'il aurait pu faire l'objet de chantage, du fait de son homosexualité, etc., etc. Peut-être, je ne sais pas, mais je ne dis pas que toutes ces considérations sont fausses, mais je crois qu'il y avait d'abord des raisons bureaucratiques et politiques profondes, et puis Hoover est un homme de son époque, c'est-à-dire là encore il faut replacer les choses dans son contexte, non pas pour le justifier ou pour l'excuser, mais pour comprendre ce qu'il en est. C'est un Américain conservateur, il croit au modèle américain, au capitalisme, et d'une certaine manière, la mafia, c'est quoi? C'est une grande entreprise capitaliste qui a le même ethos capitalistique, capitaliste, j'allais dire, que le big business, donc ils font partie du système. Bon, voilà, je pense qu'au fond de lui-même, il devait penser ça, mais il y avait d'abord donc des considérations politiques. Alors évidemment, ça a permis, cette politique d'évitement du FBI, ça a permis à la mafia, évidemment, de se développer, très facilement. Et donc, quand la commission McLean, du sénateur McLean, avec Bobby Kennedy à ses côtés, commence à pointer du doigt l'existence de la mafia et la corruption des grands syndicats, évidemment, ça met en grande difficulté le FBI. Au moment où une autre agence fédérale, elle qui lutte contre les narcotiques, hein, le Narcotic Bureau, a une toute autre vision des choses et dit non, non, mais ça existe et c'est un vrai sujet.
On va revenir au Kennedy, on va sauter Eisenhower qui a priori n'avait pas de lien évident pour le coup.
Non, parce que lui, c'est un chef de guerre. Si vous voulez, c'est comme Churchill et De Gaulle, il sort de nulle part, hein, et donc il n'a jamais eu à connaître le marigot, ouais,
c'est pas un vrai marigot politique. Ouais.
Non.
Et on va passer un peu de temps sur les Kennedy parce que c'est quand même assez fou et puis parce que c'est mythique et il y a plein de questions. Est-ce que vous pouvez nous peindre brièvement le tableau de cette famille, comme vous la décrivez, entre Joe, le père, le baron voleur, Bobby, le croisé, chevalier blanc, et Jack, donc John Fitzgerald, l'insouciant.
Vous avez tout résumé.
C'est vos
mots.
En
effet, c'est en fait une espèce de tragédie grecque, c'est une tragédie familiale. On a trois personnages qui, face à la mafia italo-américaine, sont dans trois configurations différentes. Vous l'avez cité, le père de la dynastie, Joe Joseph Kennedy, est un homme assez peu sympathique. Il appartient à cette catégorie donc de ces capitalistes criminels en col blanc, de ces barons voleurs qui sont à l'origine de la crise de 29. C'est un voyou, ni plus ni moins, un homme très très cynique, au penchant pro-nazi, etc., etc., et qui, dès les années 20-30, fait des affaires avec la mafia italo-américaine, puisque lui-même veut être dans le trafic d'alcool, dans le bootlegging. Bon. Et il a assez tôt, lui, des visées sur la Maison-Blanche, non pas à titre personnel, parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais être élu président. D'une part, il est catholique, et surtout, il avait eu des penchants pro-nazis, donc c'était dirimant totalement, mais les ambitions pour ses fils, et en particulier pour son fils aîné, mais qui va mourir en combat pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il va reporter ses ambitions présidentielles sur John Fitzgerald. Et donc, dans les années 50, il a très bien compris que pour être élu président des États-Unis, surtout quand on est catholique, il faut un petit peu l'aide de la mafia italo-américaine parce que la mafia est encore en capacité, dans une logique clientéliste, de mobiliser des blocs de voix, en particulier via les grands syndicats de salariés, en particulier via les Teamsters. Donc, on a le père cynique qui, en coulisses, mène cette politique avec la mafia. C'est un pacte avec le diable. En parallèle, on a Bobby Kennedy, dont on a un petit peu parlé, qui, lui, est un homme un peu manichéen, qui croit au bien, qui croit au mal, qui a pris conscience du fait que la mafia existait, qu'elle était un danger pour la démocratie américaine et qui mène une vraie croisade contre la mafia. Et puis, il y a John, il est intelligent, il est brillant, il est beau, il sait parler, il a des idées généreuses, mais vous utilisez le terme que j'utilise dans mon livre, il est insouciant et donc, il fréquente tout un marigot entre Las Vegas et Hollywood, fait de starlettes et d'associés de la mafia, et il va fréquenter des gens infréquentables. Il va se rendre vulnérable. Voilà. Donc on a ce trio. Dans ce trio, dans ce ménage à trois, qui savait quoi? Est-ce que John connaissait le pacte passé avec la mafia italo-américaine par son père? Etc., etc. Donc, ce sont des questions d'une infinie complexité historiquement, mais voilà ce qui se passe. Telle est la situation quand John est élu en novembre 1960.
Et alors, à cette époque, on a des personnages hauts en couleur. Hein. C'est une époque assez glamour. On a Sinatra, notamment, qui fait le lien entre le politique et Hollywood et le milieu mafieux. On a des personnages secondaires, hein, bien connus, comme Marilyn Monroe, hein, qui se perd un peu dans tout ça, et vous en parlez brièvement dans le livre. On a Joe, le père, justement, qui joue un peu avec le feu, qui est redevable, mais qui ne pense pas forcément l'être ou qui pense être intouchable. On a Jack, qui pense qu'à s'envoyer en l'air et qui est une cible facile, compromise, et donc Bobby, le croisé, qui a pris conscience de l'ennemi de l'intérieur. Et tout ça sur fond de guerre froide, et notamment de Cuba, avant de parler de la crise de Cuba, la crise des missiles. Il y a Fidel Castro qui a pris le pouvoir à Cuba et qui a délogé les mafieux de ce qui était leur espèce de paradis.
puisque Cuba était clairement géré par la mafia. Et puis, il y a effectivement Kennedy qui finit par être assassiné. Peut-être se concentrer là-dessus. Est-ce que vous pouvez me parler de votre thèse sur le meurtre de Kennedy et du lien potentiel qu'il existe avec le milieu mafieux? Alors évidemment, il nous faudrait des heures hein, juste pour balayer le sujet. Je pense que ça fait plusieurs livres. Il y a eu énormément de livres écrits là-dessus. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette thèse-là, de ce lien que vous voyez sur cet événement?
Alors, d'abord, dans le livre, je ne soutiens pas de thèse, c'est-à-dire qu'il aurait été présomptueux d'écrire un nouveau livre sur l'assassinat de Kennedy. Vous voyez bien que tous les ans, on a deux ou trois livres qui paraissent en disant, d'accord, voilà, il est la thèse, j'ai trouvé la solution. Non, ce que j'ai fait dans un chapitre spécifique et qui n'avait pas été fait auparavant, c'est que je résume et je propose au lecteur tous les faits, tous les indices et tous les témoignages qui rendent crédible la thèse d'un assassinat commandité et exécuté par la mafia italo-américaine. Donc je donne les pièces qui vont dans le sens de cette thèse et de cette hypothèse pour que le lecteur se rende compte de ce qu'il en est. Bon, après chacun se fait son opinion. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre à nouveau le contexte. Quand Kennedy est élu en novembre 1960, il est élu par le plus petit écart de voix entre deux candidats, encore aujourd'hui, à peu près 118 000 voix. Donc, l'élection s'est jouée à très peu de choses. Ça a été une élection frauduleuse. Hein. Les deux candidats, Nixon et John Fitzgerald Kennedy, ont fraudé dans tous les sens, puisqu'à l'époque, tout le monde fraudait. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'en termes de perception, la mafia est convaincue que les Kennedy leur sont redevables. Est-ce que ce déplacement de voix, il y a eu des blocs de voix, ils ont fait voter en faveur des Kennedy, ça c'est indéniable. Est-ce que ces voix ont été déterminantes? Personne ne peut répondre à cette question. Mais en tous les cas, en termes de perception, la mafia est convaincue qu'ils ont désormais un homme à la Maison Blanche et que cet homme leur est redevable. Et en effet, cette élection leur fait très plaisir puisqu'ils se disent ben, la politique d'impunité, d'immunité va se poursuivre. Le seul problème, c'est que une des toutes premières décisions prises par John Fitzgerald Kennedy, c'est de nommer son frère Robert ministre de la Justice, c'est-à-dire responsable de la direction du FBI. Et donc là, ils ont un sentiment de trahison. Leur pire ennemi va devenir le chef du FBI. Et donc, ils ne comprennent pas. Ils comprennent d'autant moins que le père leur avait toujours dit « Écoutez, Bobby, ça ne compte pas, n'ayez pas peur. Certes, il essaye de vous mener la vie dure dans les médias et au Congrès, mais ce n'est pas lui qui sera élu président. » Donc, ils voient subitement hein, que leur pire ennemi est nommé à la tête du FBI et qu'il va devoir tordre le bras de Hoover dans sa politique de non-agression. Donc, sentiment de trahison, et puis très rapidement, sentiment de peur. Parce que Robert Kennedy, et je le décris longuement dans mon livre, va mener une politique anticriminelle novatrice, intelligente et très efficace, et qui va produire très rapidement des résultats. Et donc, la mafia va avoir peur, tout simplement, de disparaître. Hein, les mafieux vont avoir peur d'être emprisonnés, pour ceux qui étaient encore de nationalité italienne, d'être expulsés, etc. Et donc, c'est ça le contexte. Et ça, c'est un premier contexte. Le deuxième contexte, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le contexte de la guerre froide. En 1959, donc, Fidel Castro, qui allait se révéler être communiste ou tomber dans le camp soviétique, prend le pouvoir en 1959 à Cuba. Les mafieux perdent en effet leur fameux hôtel casino. Et dès 1959, sous la présidence d'Eisenhower, avec comme vice-président Richard Nixon, il y a une politique secrète qui est mise en place, c'est ce qu'on appellera l'opération Mangouste, pour renverser Fidel Castro et pour l'assassiner. Voilà. Et cette politique clandestine, John Fitzgerald Kennedy va la trouver sur son bureau en arrivant et il va la poursuivre. Il va la poursuivre, il va même l'accélérer après l'échec de la baie des cochons. Bon. Seul problème, c'est que depuis 1959, la CIA a fait un calcul. elle s'est dit, qui est encore le mieux placé à Cuba en termes de renseignements, qui a des capacités peut-être pour mener des opérations d'assassinat, bah, ceux qui jusqu'à présent étaient les vrais patrons de l'île, la mafia italo-américaine. Voilà. Donc tous les faits aujourd'hui sont bien établis, ils sont relativement complexes dans leur déroulement historique, mais donc il y a un pacte qui est passé entre la CIA et la mafia italo-américaine, mais un pacte tout à fait étrange, puisque les Kennedy étant revenus au pouvoir, Bobby Kennedy est ministre de la Justice, donc vous avez d'un côté un bras de l'appareil fédéral qui lutte contre les familles de la mafia italo-américaine, donc Bobby Kennedy avec le FBI, et de l'autre côté, vous avez un autre bras du système fédéral à travers la CIA qui collabore et qui demande l'aide de la mafia italo-américaine pour renverser Castro. Voilà. Donc vous voyez la situation d'une infinie complexité qui va rendre la situation inextricable, et d'autant plus inextricable, c'est qu'après l'échec du débarquement de la baie des Cochons en avril 61, John Fitzgerald Kennedy va prendre un coup de sang. Il est à deux doigts de faire disparaître la CIA. Et il décide de donner la responsabilité du suivi des affaires anticastristes, donc du renversement de Fidel Castro, au seul homme dont il a confiance, auquel il accorde sa confiance, c'est son frère Robert Kennedy. Donc vous voyez la situation totalement schizophrénique que les mafieux ne vont pas comprendre eux-mêmes, mais dont ils vont savoir se jouer. Et en effet, donc j'ai un chapitre entier sur l'assassinat de Kennedy, donc pour essayer de montrer quels sont les éléments qui peuvent accréditer la thèse d'un complot au sens juridique du terme, donc d'un assassinat commandité et exécuté par la mafia italo-américaine, et ça ne se comprend que dans ce contexte très particulier.
Et vous dites notamment que la personne finalement qui était visée indirectement, c'était Bobby. Ça aurait été Bobby. C'est-à-dire que c'est Bobby qui posait problème, qui était très agressif, et quelque part, donc sa tête était mise à prix. Hein. J'ai perdu le nom, mais il y a vraiment des personnes qui souhaitent clairement et qui le disent se débarrasser des Kennedy. Voilà. Et ça, c'est des témoignages avérés.
Alors, contrairement à ce qu'écrivent beaucoup d'essayistes et d'américanistes en France, la fameuse thèse du rapport Warren sur l'existence du tireur solitaire a été battue en brèche plus tard par un rapport du Congrès des États-Unis, hein, que l'on peut tous télécharger en ligne et lire, mais que visiblement plus personne ne lit ou n'a jamais lu. C'est le rapport de la commission du House Select Committee on Assassination qui dit deux choses, ce rapport du Congrès. Un, c'est un complot, une conspiration, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tireurs, plusieurs auteurs et complices, donc ce qu'on appellerait en droit français une association de malfaiteurs ou une bande organisée. Et d'autre part, le rapport dit, l'hypothèse la plus crédible, c'est un assassinat commandité non pas par toute la mafia italo-américaine, mais par plusieurs familles de la mafia, en l'occurrence la famille de Chicago, la famille de Floride et la famille de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Donc en réalité, la thèse officielle, contrairement à ce qui est dit, c'est bien une thèse par le complot. À côté de ça, nul ne pourra jamais répondre définitivement à cette question qui a réellement tué Kennedy. Mais ce qu'il faut au moins, c'est avoir l'honnêteté intellectuelle de connaître les pièces du dossier et de voir que l'hypothèse, je pense, la plus sérieuse, est aujourd'hui, à ce jour, celle-ci.
Alors, après, on pourrait passer une heure là-dessus. Après Kennedy, donc on a Johnson, qui était le vice-président et qui après est réélu et qui lui aussi a fricoté avec la mafia et les laisse tranquilles. Voilà, Bobby n'est plus au pouvoir et puis assez rapidement il se fait assassiner. Et puis vient Nixon, qui lui, clairement, est selon vous, un président associé directement à la mafia. C'est plus qu'un magouilleur, mais... Donc est-ce qu'avec... Nixon, on a un véritable tournant, puisque c'est un peu presque un supporter, entre guillemets, enfin quelqu'un qui est vraiment dans le milieu depuis longtemps, qui connaît énormément de gens. Voilà. Est-ce qu'en quelque sorte, on peut dire à ce stade que la mafia a vraiment un de ses hommes à la Maison-Blanche ?
Probablement. Autant Roosevelt et Truman avaient été plus ou moins compromis, autant la situation des Kennedy était complexe, comme on l'a montré. Autant Johnson, lui, était dans l'accommodement, En revanche, avec Nixon, on a, je pense, une caricature de président mafieux, c'est-à-dire d'homme qui, depuis le début de sa carrière, en toute connaissance de cause, a accepté de fréquenter des organisations criminelles et la mafia italo-américaine. Voilà. C'est un homme qui arrive avec de très grandes dettes à leur égard, c'est évident. Et d'ailleurs, j'essaye de le montrer assez longuement dans le livre. Mmh. Ouais.
Alors, en quoi est-ce qu'on a pu voir que ça a orienté, d'une manière ou d'une autre, la politique américaine ?
Alors, ces compromissions, si vous voulez, n'ont jamais eu d'effet, à ma connaissance, sur la politique étrangère, la politique de défense. En revanche, elles en ont certainement eu au moins dans la politique anticriminelle, puisqu'on voit très bien de manière implicite et en creux que sous les présidents Johnson et Nixon, la lutte anti-mafia s'arrête, mécaniquement et quasiment instantanément. Donc il y a bien, pour parler vulgairement, paiement d'une dette où on renvoie l'ascenseur. Il faut voir que la lutte anti-mafia, en réalité, n'a quasiment jamais existé aux États-Unis. Il y a eu la parenthèse de Bobby Kennedy, en fait, petite parenthèse de 2 années, et après la mort de John Fitzgerald Kennedy, le système revient à sa léthargie, à ce dispositif d'immunité et d'impunité, et qui va être donc flagrant sous Johnson et pire encore sous Nixon. Mmh.
Et ça pose une question intéressante qu'on aurait pu poser au début, qui est finalement, qu'est-ce que cherchent les mafias ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Pour certaines personnes, enfin, moi, j'ai déjà lu quelque part que finalement, ce qu'elles voulaient, c'était le pouvoir. Pour d'autres personnes, c'est juste qu'on les laisse tranquilles, qu'elles puissent faire leur affaire et gagner de l'argent. Voilà, quelle est votre vision des choses ?
Les organisations criminelles ne veulent jamais le pouvoir politique. Ça ne les intéresse pas. Et ça les intéresse d'autant moins qu'elles prendraient le risque de s'exposer publiquement. Non, ce qu'elles veulent, c'est neutraliser le pouvoir, le vider de tout sens et de toute réalité pour pouvoir tout simplement le manipuler. Voilà. Donc elles recherchent de l'impunité à travers un certain nombre tout simplement de marionnettes, ni plus ni moins. Donc, et peu importe les opinions politiques, que les gens soient démocrates ou républicains. Donc, elles ne recherchent pas le pouvoir, elles cherchent à le neutraliser techniquement pour obtenir 2 choses. Premièrement, obtenir de l'impunité et de l'immunité. En gros, qu'il n'y ait plus de politique anticriminelle dirigée contre eux. Et d'autre part, retirer des bénéfices, par exemple, à travers des contrats publics, etc. Voilà.
Ok. Alors, on arrive à l'ère moderne, donc à partir des années 70, hein, notamment avec une prise dans les post-prises de conscience. Hein, il y a un film comme Le Parrain qui sort au début des années 70. Voilà, ça commence aussi à rentrer dans la culture américaine. Suite à Nixon aussi et à l'assassinat de Kennedy, déjà, il y a une espèce de défiance aussi du peuple américain envers l'État, envers les politiques qui arrivent et qui est toujours là, d'ailleurs. Et puis, sous Reagan, on emploie de grands mots, c'est-à-dire qu'on va simuler à nouveau une guerre contre la criminalité, une guerre contre la drogue, un war on drugs, avec un discours qui va être très dur, et puis des actions en tout cas très, très impressionnantes qui sont menées notamment en Amérique du Sud, contre les trafics. Et dans les faits, qu'est-ce qui se passe sous Reagan ? Est-ce que lui-même est un président cadenas avec la mafia ? Et surtout, est-ce qu'à cette époque-là, début des années 80, on va être à un tournant par rapport aux politiques décidées par Reagan ?
Alors, Reagan va avoir un discours sur, en effet, la guerre au crime, la loi et l'ordre. Ça avait déjà été le cas sous Nixon. Mais comme un petit peu à l'image de Nixon, lorsqu'il parle de la loi et de l'ordre, de la lutte contre le crime, il parle d'abord des crimes violents, des crimes de rue. Donc on est très loin des grandes organisations criminelles, et en particulier de la mafia italo-américaine. Voilà. Alors, sous Reagan, la situation est très complexe, puisqu'il y aura des arrestations de mafieux, mais je montre également à travers 2 affaires judiciaires très peu connues, mais tout à fait gigantesques, qu'en réalité, il y aura beaucoup de complaisance et en fait une couverture de certaines affaires mafieuses par la présidence Reagan. Et ça s'explique par le fait, parce que quelque chose que je raconte assez longuement, c'est le parcours professionnel, l'ascension de Ronald Reagan, qui est une ascension donc à Hollywood, à l'ombre de la très grande société de production et d'agents d'artistes, Music Corporation of America, MCA. Alors, la carrière de Ronald Reagan se comprend qu'à travers MCA, qui a été vraiment la société qui a fait la pluie et le beau temps dans le monde artistique américain pendant 70 ans, hein, fondée par Jules Stead et ensuite par Lou Wasserman. Or, il se trouve que MCA est, depuis ses origines, une entité dépendante de la famille de Chicago, The Outfit. Voilà. Donc, on doit lire toute la carrière artistique puis politique sponsorisée par MCA comme étant en réalité en partie une carrière qui se fait à l'ombre de la mafia et de la famille de Chicago, avec un personnage absolument central dans la vie, dans l'histoire politique, économique et sociale des États-Unis, qui est un homme, qui est un avocat, peu connu en France, mais qui a joué un rôle dans l'ombre très important, qui s'appelle Sidney Korshak, qui a été le fixer, c'est-à-dire l'arrangeur, le médiateur entre le monde du haut et le monde du bas. Voilà. Et quand Reagan arrive à la Maison Blanche, alors, avec un infini talent, hein, et avec de très grands succès en politique étrangère, c'est indéniable, c'est un homme qui est redevable, voilà, qui est redevable à tout un univers mafieux.
Donc on revient à cette idée, ouais, de voir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi à cette époque, donc, du changement des règles du jeu, c'est-à-dire du grand mouvement de libéralisation des échanges, du grand mouvement de libéralisation des marchés financiers, des prémices de la mondialisation, de ce désengagement en fait de l'État qui commence sous Reagan. Est-ce qu'on entre dans un nouveau monde pour les organisations criminelles en général et les mafias en particulier ?
Alors, de manière générale, oui. Alors, de manière plus particulière pour les États-Unis, vous vous souvenez que la révolution conservatrice, celle de Reagan, arrivait avec un mantra, hein, un élément de doctrine, c'est que l'État, c'est le problème et pas la solution. Donc, la grande obsession, c'est de couper dans les budgets fédéraux, et Reagan va en particulier couper dans les budgets des agences fédérales de répression. Donc, il est évident que ça a fait plaisir aux grandes organisations criminelles. Bon. Par ailleurs, tous les phénomènes de dérégulation, de libéralisation des marchés, donc en fait d'atténuation des contrôles, des surveillances, etc., vont toujours dans le sens des criminels, de la criminalité. Et c'est ce que j'ai expliqué dans un autre livre, c'est qu'on ne comprend pas les crises financières nées de la dérégulation des marchés si on ne comprend pas le rôle des escrocs dans ces phénomènes, quoi. Mais en tous les cas, la période Reagan a été une période plutôt d'aubaine pour la mafia italo-américaine. Oui.
Donc après, on a Bush, et vous dites que la famille Bush n'est pas vraiment liée à la mafia, hein, c'est plus le milieu du pétrole, et enfin, voilà, le capitalisme classique, entre guillemets, américain. En tout cas, il n'y a rien d'évident. Voilà. Et puis Clinton, un peu plus flou, on en dit quelques mots de la famille Clinton ou...
Oui, alors, bon, là, on arrive sur l'histoire du temps présent. Donc, d'un point de vue méthodologique, il est beaucoup plus difficile d'écrire.
On a moins de recul,
oui. Non pas pour des raisons de... Alors, voilà, on a moins de recul. Donc, ma prudence ne tient pas au droit de la diffamation ou à de la crainte révérentielle, au fait qu'il soit vivant, mais simplement au fait qu'on a moins d'éléments matériels, moins de témoignages, voilà. Donc, on a moins de pièces. Alors, malgré tout, en résumé, il y a quand même deux dimensions chez Bill Clinton, donc qui est quand même un homme qui fait partie d'une famille politique, qui incarne le camp du bien, de la morale, qui est très, très moralisatrice. Il y a tout d'abord la première partie de sa vie en Arkansas. Hein. J'explique assez longuement quelles sont ses origines familiales. Il a une famille très particulière. Un oncle très spécifique qui a certainement été en lien avec le monde du crime et la mafia italo-américaine. C'est quelque chose d'assez peu connu, mais que j'ai creusé. Et puis, lorsqu'il était gouverneur d'Arkansas, ça a été la grande période durant laquelle cet État était en fait un narco-État. Voilà. Donc, ça n'est pas indifférent. Bon, je n'en conclue rien, mais voilà, on parle très peu des origines de la première partie de sa carrière politique, mais elle est très spéciale. Et puis ensuite, lorsqu'il est président des États-Unis, je raconte en particulier un épisode, un de ses meilleurs amis, hein, qui est un syndicaliste d'un grand syndicat de salariés qui était identifié depuis longtemps, à la fois le syndicat et l'individu, comme étant un associé de la mafia italo-américaine. Donc, ça n'est quand même pas totalement indifférent dans la manière très, très visible et très cynique avec laquelle les époux Clinton ont accepté d'entretenir des relations publiques et politiques avec un tel personnage, quoi.
Et Obama, pur, non ? Pour le coup.
Alors, Obama, c'est... Alors, il faut être encore beaucoup plus prudent. Il existe assez peu de sources sur Barack Obama. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai réussi dans ce livre à plusieurs reprises à exhumer des sources très particulières qui sont des romans à clé.
Oui.
Vous savez, quand dans un moment de l'histoire, vous ne pouvez pas dire la vérité, vous passez par un biais qui est la fiction. Voilà. Et j'ai en particulier exhumé un roman très étrange et très troublant. On n'a pas le temps d'en parler là. Le problème de Barack Obama, c'est qu'il fait une carrière politique éclair et il est issu d'un marigot politique, un des plus corrompus des États-Unis, qui est la ville de Chicago. Voilà. Donc tout le problème est de savoir si on peut sortir complètement indemne d'une ville et d'un État qui a été aussi longtemps corrompu, en particulier par la mafia italo-américaine. Et puis surtout, je décris assez longuement les trois personnages qui ont fait la carrière de Barack Obama, qui ont été ses trois sponsors financiers, et qui tous trois questionnent, voilà, questionnent sur leur lien avec la famille de Chicago.
Voilà, on va pas aller dans les détails. Hein. Encore une fois, je renvoie tout le monde vers ça. Et pour finir, après on va un petit peu élargir rapidement, mais et Trump on est sur un phénomène finalement assez étrange. Parce qu'on a une personnalité qui a l'air fascinée par ce milieu-là, en tout cas les codes de ce milieu-là, qui se comporte presque lui-même comme un parrain, qui on voit bien qu'il n'a aucun scrupule et qu'il admire les gens qui même n'ont aucun scrupule, il est pris dans les affaires, il l'assume complètement, il admire presque les tricheurs, les menteurs, les magouilleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il est sous influence pour autant ? Voilà, qu'est-ce qu'on sait ? Évidemment, on a très très peu de recul, c'est compliqué d'en parler. Et qu'est-ce qui ressort de ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret ?
Alors oui, il y a beaucoup de choses concrètes. Alors là, il y a d'abord une dimension, vous venez de l'évoquer, c'est son comportement. C'est-à-dire qu'il a une fascination, on le voit dans son comportement personnel, dans sa grammaire, dans son vocabulaire, dans ses références, il admire cet univers. Pour lui, c'est un univers autoritaire, viril. Pour lui, les mafieux sont jamais que des capitalistes, comme les autres. Bon, donc il n'y a pas de, il n'a pas comment dire de d'inhibition. Enfin, il n'a pas de rejet moral et éthique vis-à-vis de cet univers. Et il semble tout à fait fasciné. Mais surtout, le vrai sujet, il est ailleurs. C'est que Donald Trump est le fils de son père. Voilà. Donald Trump, c'est un promoteur immobilier, hein, comme l'a été son père. Son père a fait donc de la promotion immobilière à New York dans la première moitié du XXe siècle, en lien avec plusieurs familles de la mafia italo-américaine. Et Donald Trump a fait exactement la même chose, alors non pas à Brooklyn, mais dans le quartier de Manhattan. Et là, on a maintenant des éléments extrêmement probants et troublants qui montrent que c'est en toute connaissance de cause qu'il a entretenu des liens avec la mafia italo-américaine, avec les cinq familles, pour la promotion immobilière, à une époque dans les années 80 où l'ensemble de la chaîne de valeur du ciment à New York, d'amont en aval, était tenue par les cinq familles de New York, hein, à l'époque où le ciment était réputé être l'or de ces mafieux, donc il leur apportait des millions de dollars tous les ans. Et Donald Trump a ensuite entretenu des relations, y compris avec la mafia, dans l'autre business qu'il a développé, dans le New Jersey, qui est le monde des casinos. Voilà.
Ok, bon, on a fini de peindre un peu le tableau. Encore une fois, on peut y passer beaucoup plus de temps, mais... Est-ce que donc on voit qu'il y a une influence importante de la mafia donc sur la vie politique américaine et donc sur la quelque part on peut questionner même cette trajectoire du pays en tout cas sur la politique intérieure et ça ouvre plein de questions probablement auquel on n'aura jamais de réponse précise, mais et on a pris les États-Unis comme un exemple particulier. Mais voilà, comme on l'a dit au début, on sait qu'il y a d'autres mafias, triades, yakuza, narcos, qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans cette catégorie-là, il y en a en Russie, etc. Mais est-ce que ces dynamiques d'organisation, de corruption, d'influence politique sont des choses qu'on retrouve à peu près partout? Est-ce qu'il y a des similitudes? Alors, on ne va pas aller dans le détail, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment propre aux États-Unis, en tout cas dans les méthodes?
Non, alors, on peut avoir une vision historique et relativiste en soulignant que le crime organisé a toujours existé et qu'il a toujours essayé de se rapprocher du pouvoir politique. Ce que je pense, c'est que depuis le milieu du XXe siècle, ces organisations criminelles, pour certaines d'entre elles, ont pris une place considérable, sont devenues des puissances, hein, des puissances au sens de la science politique. Raymond Aron avait une très jolie définition du concept de puissance dans Paix et guerre entre les nations. Il disait une puissance, c'est une entité qui a une capacité autonome d'action et d'influence. Voilà. On a aujourd'hui des organisations criminelles qui développent des chiffres d'affaires qui sont comparables au PIB de certains petits pays. Bon, ce qui leur donne un vrai pouvoir sur les États et à l'intérieur des États. Donc ça, c'est une réalité absolument fondamentale de la modernité. Et ces organisations criminelles ont connu un effet de souffle, un effet d'aubaine, avec la mondialisation à partir des années 80. La mondialisation, c'est quoi? C'est la dérégulation, l'ouverture des frontières, l'abaissement des barrières, des contrôles, des surveillances, l'ouverture des marchés, la circulation des biens et des personnes. Bon. Donc il y a eu un véritable effet de souffle. Et quand on regarde la planète, en réalité, prenez les 200 États qui sont représentés à l'ONU, vous voyez qu'une majorité d'États sont corrompus par des phénomènes de criminalité organisée. Ou bien ce sont des pouvoirs politiques autoritaires et prédateurs de leur propre société, et c'est une forme de criminalité organisée, hein, c'est de la criminalité en col blanc, ou bien vous avez des organisations criminelles qui minent de l'intérieur les sociétés et les États. Voilà. Et on n'a pas assez pris conscience de la dangerosité du phénomène en Europe. On voit très bien que depuis... au moins 3 décennies, on en prend tout juste conscience, on a des États qui sont gravement corrompus de l'intérieur. Alors, on a un problème italien spécifique qui remonte au milieu du XIXe siècle.
Mais Hollande, oui.
On voit très bien qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États, les Pays-Bas, mais en réalité, le problème existe depuis plus de 30 ans. On peut citer la Belgique. On a une question française qui est nié.
Oui.
Voilà, j'en dirai pas plus, mais on est dans le déni profond sur ces sujets-là. Mais là encore, pour des raisons historiques et culturelles. Voilà, donc c'est un sujet vraiment central et important. Et il faut voir que ces phénomènes criminels peuvent avoir un impact dans les relations internationales. Je vais prendre un exemple. Les États-Unis connaissent depuis une vingtaine d'années une crise des opioïdes. C'est-à-dire que vous avez environ depuis 10-15 ans, entre 100 et 120 000 Américains qui meurent d'overdose aux États-Unis à cause d'opioïdes. D'abord d'opioïdes qui ont été vendus légalement par l'industrie pharmaceutique et ensuite des opioïdes qui ont été fabriqués par les cartels mexicains de la drogue. C'est le fameux fentanyl. Bon. Ce fentanyl est fabriqué dans des laboratoires par les cartels mexicains. Mais d'où viennent les précurseurs chimiques qui permettent au fentanyl d'être fabriqué? Ces précurseurs chimiques viennent de Chine. Voilà. Alors les Américains ont beau demander aux autorités chinoises la fin des exportations de ces précurseurs chimiques, et évidemment, comme par hasard, ils n'obtiennent pas gain de cause. Donc vous voyez très bien comment la question du crime organisé peut s'inviter dans les relations internationales. Au plus haut niveau.
Une guerre de l'opium à l'envers, presque.
C'est exactement ça, et c'est d'ailleurs comme ça que les Chinois le vivent. Ils nous rendent la monnaie de notre pièce. Je prends cet exemple. Je pourrais vous prendre des dizaines d'autres exemples de ce type.
Mais où est la frontière aujourd'hui? Puisque on a le crime, donc, comme vous l'avez dit, qui est mondialisé avec le commerce. La frontière entre le légal et l'illégal est parfois floue, notamment avec les paradis fiscaux. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont légales, mais qui posent problème. Donc,
comment est-ce que travaillent les mafias aujourd'hui ? Est-ce que finalement, elles ne se sont pas totalement fondues dans le système, d'une certaine manière ?
Alors, parfois, elles ont réussi, en effet, à jouer un rôle systémique, c'est-à-dire à se situer dans l'intrication totalement noyée dans le tissu économique et social, voire dans le tissu politique, c'est évident. Vous prenez un grand pays comme le Mexique. Ce qui se passe au Mexique depuis plusieurs décennies, ça n'est pas la confrontation entre un État et des organisations criminelles, c'est en fait un kaléidoscope entre des acteurs criminalisés, à la fois dans la société et dans l'appareil d'État. Voilà. Donc, en effet, ces frontières entre le légal et l'illégal, entre les gentils et les méchants, est une frontière de plus en plus floue et complexe.
Et ça pose problème, ce que vous décrivez, la persistance de la puissance, on vient de faire pendant plus d'une heure, de la puissance mafieuse dans la politique américaine depuis un siècle, et on a l'impression que c'est pas vraiment prêt de s'arrêter. À quel moment est-ce qu'il est trop tard ? Quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de cette histoire ? Pour les démocraties, notamment, où, voilà, on se dit que chez nous, ça n'a pas l'air d'être encore trop tard. Enfin, j'en sais rien, c'est pas le sujet du jour, mais c'est quoi le seuil ? À quel moment il n'y a pas de retour en arrière ? On pense à cette parabole ou cette métaphore du petit prince avec le baobab qu'il faut tailler avant qu'il ne prenne toute la place et qu'il détruise la planète. Qu'est-ce que vous avez pu observer ?
C'est une question importante. Les débuts de partie sont fondamentaux. Voilà. Quand on laisse croître un phénomène criminel, et lorsque ce phénomène criminel est intelligent, ensuite il devient indéracinable. Alors c'est vrai en particulier quand on a affaire à des sociétés secrètes criminelles, comme la mafia, elle est indéracinable. D'ailleurs, là, je le rappelle dans mon livre, le FBI à New York dit souvent qu'ils tondent la pelouse. Voilà. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas enlever la mauvaise herbe, mais quand l'herbe est un petit peu trop haute, ils la coupent. Donc, avec certaines organisations criminelles, lorsqu'elles se sont installées, vous ne pouvez plus les déloger. Donc ça, c'est un vrai questionnement. Et pour d'autres organisations criminelles, celles en particulier qui ne sont pas des sociétés secrètes, mais des bandes, vous arrivez à les combattre et à les détruire, mais en revanche, leur biotope criminogène, celui-là perdure. C'est-à-dire que d'autres organisations criminelles réapparaissent. On a un très bon exemple avec la Corse. Vous avez un phénomène d'organisation criminelle et de violence sociale très développée dans cette île. Ce n'est pas la seule partie du territoire français, évidemment, mais depuis le 19e siècle, avec une symbiose très forte avec le pouvoir politique local. Vous voyez très bien que vous avez des bandes qui naissent, qui meurent, etc., mais que vous avez un terreau, au sens anthropologique du terme, qui en permanence permet la régénérescence d'autres bandes criminelles. Donc, quand vous ne prenez pas les choses, en effet, à la racine, elles deviennent très difficiles à combattre. Et par ailleurs, l'autre leçon qui est très liée à celle-là, c'est le phénomène du déni et de l'aveuglement. Quand vous êtes dans le déni et de l'aveuglement du réel criminel, vous permettez à ce réel criminel de s'installer. Quand vous expliquez qu'il n'y a pas de mafia, personne ne lutte contre la mafia. Voilà. Donc ça, c'est un problème de lucidité, de courage politique, c'est aussi un problème épistémologique, c'est-à-dire de connaissance du réel. Voilà.
Et factuellement, donc, est-ce qu'il y a des seuils ? À partir de quel moment, en fait, ça devient extrêmement compliqué de... À quel moment un État devient mafieux, en fait, devient totalement corrompu ? Et est-ce que c'est à partir du moment où c'est un territoire qui est pris au piège, ou alors est-ce que c'est une classe politique, ou voilà, je ne sais pas, pareil, si vous avez des observations, est-ce que c'est des nœuds comme les ports qui passent dans la main de trafiquants, etc.
Alors, un territoire peut passer sous le contrôle du crime organisé de manière visible ou de manière invisible. Alors, de manière visible, c'est lorsque tout devient incontrôlé, anarchique, que vous avez des troubles à l'ordre public à n'en plus finir, que vous avez une présence physique des gangs dans la rue, que vous avez des règlements de compte à n'en plus finir, que l'insécurité règne, etc. Et puis, parfois, les choses peuvent se faire de manière beaucoup plus subtile, de manière invisible, et donc la prise de conscience est beaucoup plus tardive. Mais partout où le crime organisé devient dominant, vous avez en fait un renversement de souveraineté. C'est-à-dire que le pouvoir légal est phagocyté, neutralisé, et le pouvoir criminel s'installe. Voilà. mais vous avez des modalités extrêmement, extrêmement différentes. Ça peut se faire de manière silencieuse, comme ça a été le cas en Sicile pendant des décennies et que ça le demeure encore en partie aujourd'hui. Ou bien ça peut se faire de manière extrêmement visible et dans l'anarchie. On le voit avec les phénomènes des méga-gangs en Amérique centrale, hein. On parle beaucoup des maras, par exemple au Salvador et au Honduras, où là, en effet, un seuil critique a été dépassé. Donc, quand vous avez un seuil critique qui est dépassé, à ce moment-là, vous n'avez plus que les états d'exception, les états d'urgence pour reprendre le contrôle. On sort d'une logique de police, de justice et d'état de droit.
Et est-ce qu'il y a des... On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers, peut-être plus près de chez nous en Europe, que vous souhaitez évoquer, en fait?
Le crime organisé est en train de devenir en Europe un vrai sujet. Voilà. Et en particulier en France. Bon. C'est un sujet dont on parle relativement peu dans le débat public. Voilà. Il y a les élites en France, les élites politiques, académiques, culturelles, médiatiques, ont tendance à traiter avec beaucoup de négligence cette question, alors même qu'elle engage l'avenir de la société et l'avenir de l'État. Voilà. Je n'en dirai pas plus.
Dernière question, peut-être la plus dure. Deux livres à lire absolument, soit pour prendre davantage conscience de tout ce qui joue dans l'ombre d'une manière générale et pèse tant sur les événements du monde, soit des livres qui vous ont particulièrement marqué dans votre vie, dans votre vie d'homme.
Alors là, vous allez faire référence à mes goûts littéraires.
Je dirais d'abord une
liste de lecture. D'abord, je parlerai de la trilogie des Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Et puis, puisqu'on parlait, je pourrais vous citer beaucoup d'autres auteurs français qui m'ont beaucoup marqué, mais puisqu'on parlait des États-Unis, peut-être un clin d'œil à l'Amérique, un auteur qui me semblait un très grand prosateur, Raymond Chandler, voilà, et c'est cet roman.
Très bien. Bah écoutez, j'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous écoutent de creuser toutes ces questions-là. En tout cas, je vous conseille encore une fois fortement de procurer votre dernier ouvrage et puis me procurer les précédents aussi. Voilà, ça se lit comme un roman avec énormément de personnages. On n'a fait que balayer la surface, même si je pense qu'on a quand même parlé pas mal de choses. Merci beaucoup pour toutes ces ouvertures, ces décalages de regard, et merci pour votre temps, Jean-François.
Merci bien. Au revoir.
Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que cette conversation vous aura plu, peut-être même qu'elle vous aura fait un peu changer de regard sur notre époque et ses enjeux. Je suis Julien Devorex, je me consacre à plein temps à cette enquête sur le monde parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'y voir plus clair et qu'on a besoin de croiser les regards et les sujets si on veut être en mesure de bien traverser les secousses présentes et les secousses à venir. Si ce podcast vous plaît et que vous l'écoutez de temps en temps, pensez à me soutenir via un don, même un euro ça compte, ça me permet de financer mes outils de production par exemple. Et sinon vous pouvez simplement parler de Sismique autour de vous ou via vos réseaux sociaux. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté des auditeurs sur le Discord, vous abonner à Sismique sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à la newsletter dans laquelle je partage des informations complémentaires sur les épisodes et mon opinion sur certains sujets. Ou encore, vous procurer mon livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien » aux éditions First. Tous les détails et tous les liens sont sur sismique.fr comme d'habitude. Merci pour votre curiosité, merci pour votre soutien et à bientôt.
Changer le monde ? Quelle drôle d'idée ! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer ?